VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 21 avril 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
République démocratique du Congo, la SADC tente à son tour d'aider les partis en présence à trouver une solution après l'échec des efforts de la CENCO.
Au Rwanda, un ancien chef de milice Interahamwe condamné à la prison à vie à Kigali pour implication dans le génocide de 1994.
Au Niger, opération de recensement biométrique de la population dans la région de Difa, qui abrite des centaines de milliers de réfugiés et de personnes déplacées par Boko Haram.
La FAO va retirer son personnel de certaines zones frappées par la famine au Soudan du Sud à cause de l'insécurité persistante.
En France, un policier a été tué et deux autres blessés dans un attentat djihadiste hier en plein cœur de Paris.
Et ne manquez pas le reportage de notre envoyé spécial au Niger, Nicolas Pinault, mais aussi notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Nouvelle tractation en RDC après l'échec de la médiation des évêques catholiques. La SADC, la Communauté de développement d'Afrique australe, s'implique dans le processus. Le point avec Eddie Isango.
Les ministres des Affaires étrangères de la SADC ont entamé hier à Kinshasa les consultations avec les parties congolaises au dialogue. Après les représentants de la famille politique du président Joseph Kabila, ils ont reçu l'opposition. Mais la réunion avec les rassemblements a provoqué un incident qui a été vite résolu en fin de journée. La branche dirigée par Félix Tshisekedi a quitté les lieux, jugeant insultant que la SADC rencontre l'aile conduite par Joseph Olengankoy. C'est plus tard dans la soirée qu'ils ont été reçus. Pour eux, l'accord du 31 décembre doit être appliqué. Pour les autres, seule la question du président du Conseil des suivis de la transition et la signature des arrangements particuliers restent à résoudre. Deux jours plus tôt, les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies, Mamadou Sidiku, avaient lui aussi lancé des bons offices.
Au Rwanda, un ancien chef de milice dans la province de Gisenyi, dans le nord-ouest du pays, a été condamné hier à la prison à vie par un tribunal de Kigali pour son implication dans le génocide de 1994. Eric Manirakiza.
La haute cour à Kigali a déclaré coupable de crimes de génocide Bernard Munyagishari et l'a condamné à la prison à perpétuité. Au moment des faits, il était président pour la préfecture de Gisenyi des extrémistes Hutu Interahamwe, fer de lance du génocide. Selon Emmanuel Itamwa, porte-parole des cours et tribunaux, il a 30 jours pour faire appel. Munyagishari était poursuivi pour des faits perpétrés dans la préfecture de Gisenyi, notamment au cimetière surnommé Commune Rouge, où les Tutsis étaient ensevelis dans des fosses communes. L'ex-chef de milice est le deuxième accusé du tribunal pénal international pour le Rwanda transféré à Kigali. Le pasteur pentecôtiste Jean Uwinkindi attend son jugement en appel. Il avait été condamné à la prison à vie en première instance. Le TPIR, qui était basé à Arusha en Tanzanie, a fermé ses portes fin 2015.
Le groupe djihadiste Front de Libération Massina d'Amadou Koufa, allié au groupe djihadiste Ansardine, est responsable présumé de l'enlèvement d'une religieuse franciscaine colombienne, Gloria Cecilia Narvaez, en février au Mali. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le général Fernando Murillo, directeur de la direction anti-enlèvement et anti-extorsion de la police nationale colombienne. Le problème est que depuis l'enlèvement de la religieuse, le 7 février, aucun groupe n'a revendiqué le rapt ni demandé de rançon, a poursuivi le général Murillo, précisant qu'il n'est pas clair s'il s'agit d'un enlèvement pour de l'argent ou politique ou d'un autre type.
Le Niger va lancer une opération de recensement biométrique de la population dans la région de Difa, qui a déjà subi plusieurs attaques de Boko Haram et abrite 240 000 réfugiés et personnes déplacées. John Linden.
C'est un recensement à vocation humanitaire d'après Bassou Mohamed, ministre de l'Intérieur. Pour le ministre, il s'agit d'avoir les informations les plus précises et les plus sûres sur les populations de la région qui subit depuis 2015 des attaques de Boko Haram. Il sera délivré à chaque individu de plus de 9 ans une puce qui contient toutes ces informations. Des actes de naissance, certificats de mariage et de décès, des cartes d'identité nationale, des cartes de réfugiés et titres de séjour seront établis gratuitement pour avoir une identification précise de chaque personne sur le territoire de Difa.
53 Nigérians ont été traduits en justice hier dans l'état de Kaduna pour avoir organisé un mariage gay. L'homosexualité peut entraîner 14 ans de prison dans le pays. C'est ce qu'a indiqué hier un greffier à l'AFP. Les accusés, des hommes âgés de 20 à 30 ans, pour la plupart étudiants, sont passés en première audience mercredi devant la Cour de justice de Zaria. Ils ont été arrêtés après dénonciation vraisemblable d'un employé de l'hôtel où se tenait le rassemblement.
La FAO va retirer son personnel de certaines zones frappées par la famine au Soudan du Sud. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévoit aussi de recourir à des hélicoptères pour la livraison de l'aide à cause de l'insécurité. Abdourahmane Dia.
La décision de la FAO de se retirer de certaines zones fait suite à l'assassinat de 3 travailleurs humanitaires la semaine dernière. Le Soudan du Sud fait face à une crise alimentaire sans précédent. Plus de 80 agents humanitaires ont été tués depuis le début de la guerre civile en 2013. La FAO a temporairement retiré 40% de son personnel de la région de Wao, au nord-ouest de la capitale. Pour amoindrir le risque pour ses employés, l'organisation veut recourir à des hélicoptères pour faire parvenir l'aide dans les zones touchées par la famine. Cependant, cette méthode sera 10 fois plus coûteuse alors que l'ONU fait face à un manque criard de moyens pour financer ses activités. Un responsable onusien a même avoué qu'une absence du personnel sur le terrain affectera négativement les activités. Selon les Nations Unies, plus de 100 000 Sud-Soudanais souffrent de famine et plus d'un million sont menacés à cause de la sécheresse et de la guerre civile.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, et 2 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, la dernière journée de la campagne a été bouleversée par un attentat djihadiste en plein cœur de Paris. Cette attaque a coûté la vie à un policier et en a blessé 2 autres, dont un grièvement, sur les Champs-Élysées. Une touriste a aussi été touchée par une balle. L'assaillant, lui, a été abattu par la police. D'autres détails avec Jean-Roger Bion.
L'attaque a été presque aussitôt revendiquée par le groupe djihadiste État islamique à l'origine de la plupart des attentats qui ont fait 238 autres morts depuis 2015 en France. Selon ce groupe, il s'agirait d'un certain Abou Youssef le Belge. Or, selon des sources proches de l'enquête, l'agresseur abattu est un Français de 39 ans qui faisait déjà l'objet d'une enquête antiterroriste. Cela pose donc la question de savoir s'il s'agit du même homme que celui nommé par les djihadistes. Dans une allocution télévisée, le président François Hollande a promis d'être d'une vigilance absolue pour sécuriser la présidentielle, dont le premier tour se tient dimanche. Plusieurs capitales ont exprimé leur soutien à la France. Le président américain Donald Trump, évoquant une attaque terroriste, a présenté ses condoléances au peuple de France. La chancelière allemande Angela Merkel a dit se tenir de façon ferme et déterminée aux côtés de la France.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné énergiquement le plus récent test de missiles balistiques nord-coréens, blâmant Pyongyang d'avoir considérablement augmenté la tension dans la région et au-delà. La Corée du Nord a procédé samedi dernier à un tir qui a échoué, tir de missiles balistiques.
Par ailleurs, la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a fustigé hier le comportement de l'Iran et des milices alliées libanaises du Hezbollah, avertissant que les États-Unis agiront contre, je cite, cette menace croissante. Elle intervenait hier à la réunion mensuelle du Conseil sur le Moyen-Orient. Elle a accusé Téhéran et le Hezbollah, un groupe terroriste pour Washington, de complot pour déstabiliser la région par des actes terroristes et l'intervention militaire en appuyant la brutalité de Bachar al-Assad en Syrie, entraînant des milices meurtrières en Irak et armant les militants houthis au Yémen. La veille, le secrétaire d'État Rex Tillerson avait estimé que l'accord avec l'Iran échouait à remplir ses objectifs après l'annonce que Donald Trump avait ordonné la réévaluation de la position de Washington face à Téhéran.
En Iran même, le Conseil des gardiens de la Révolution a validé la candidature du président sortant Hassan Rouhani à la présidentielle, ainsi que celle du conservateur Ibrahim Raisi, mais a rejeté celle de l'ancien dirigeant Mahmoud Ahmadinejad, annonce jeudi les médias officiels.
Et puis le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a dit avoir convenu avec son homologue égyptien Saïd Kissoubi de la nécessité d'un partenariat sécuritaire renouvelé et fort entre leurs 2 pays, alors que l'Égypte se débat dans une menace extrémiste grandissante. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho Claire Morin-Gibourg.
Le mouvement des entreprises du Sénégal et le réseau international Lexing ont lancé l'initiative africaine des technologies avancées, ou IATA, hier à Dakar. Cette initiative d'opérateurs et de chefs d'entreprise africains veut vulgariser et rendre plus accessible le numérique en Afrique de l'Ouest. L'ambition de l'IATA est de fédérer tous les acteurs du secteur du digital dans l'espace de l'Union économique monétaire ouest-africaine et d'accompagner programmes et projets numériques. La production de coton du Sénégal a enregistré une baisse de 31% durant les deux premiers mois de 2017, comparé à la même période en 2016, selon les chiffres du gouvernement. C'est la baisse des ventes à l'exportation de près de 24% qui a engendré cette diminution de la production. 6 citoyens kényans ont déposé une requête à Nairobi pour contester les conditions d'attribution à la société française Safran du marché de l'organisation du vote électronique pour les élections générales du 8 août prochain. Selon eux, la commission électorale a enfreint les règles d'attribution des marchés publics. Au cœur du litige actuel figurent deux sociétés françaises rivales, Gemalto qui faisait la course en tête jusqu'à ce que la commission électorale kényane annule purement et simplement l'appel d'offres lancé mi-décembre 2016 et Safran qui s'est vu attribuer le contrat dans la foulée.
À présent les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Football en Europa League, les résultats des quarts de finale retour.
Oui, qualification sans difficulté du Celta Vigo après un nul 1-0 contre le Racing Genk battu à l'aller 3-2. Les Allemands du Schalke 04 n'ont pas réussi l'exploit d'éliminer l'Ajax d'Amsterdam malgré leur victoire 3-2. À l'aller, l'Ajax les avait battus 2-0. Qualification des Anglais de Manchester United, 2-1 face à Anderlecht. Les Français de Lyon ont été contraints à Istanbul au tir au but pour leur qualification en demi-finale après prolongation face au Besiktas. À l'issue du temps réglementaire, le Besiktas menait 2-1. Le même score pour Lyon à l'aller.
33e journée du championnat d'Espagne, Real Madrid et FC Barcelone dans la course pour le titre de la Liga.
Oui, un classico alléchant. Tous les esprits en Espagne sont déjà tournés vers cette grande affiche du week-end. Jusque-là, le Real Madrid occupe la première place avec 75 points et un match en moins, tandis que le FC Barcelone est deuxième avec 72 points. Les Catalans risquent de tout perdre en l'espace de 4 jours s'ils s'inclinent dimanche soir au stade Santiago Bernabéu. En revanche, un succès leur permettrait de revenir à la hauteur du leader merengue et d'espérer conserver leur titre de champion d'Espagne pour achever en beauté le mandat de l'entraîneur Luis Enrique sur le départ en juin. Le club madrilène a annoncé le retour de son attaquant vedette Gareth Bale, rétabli d'un problème à un mollet.
La Cour suprême d'Espagne réexamine la condamnation de Messi pour fraude fiscale.
Oui, la Cour doit se prononcer sur le recours présenté par la défense de la famille du footballeur argentin. Messi et son père Jorge ont été condamnés à 21 mois de prison pour une fraude fiscale de 4,16 millions d'euros. La décision des 5 magistrats de la Cour pourrait ne pas être connue avant plusieurs jours.
En tennis, le numéro 1 mondial éliminé avant les quarts du Masters à Monaco.
Andy Murray a abdiqué face à l'Espagnol Albert Ramos, 24e mondial. Le Catalan a tenu le choc en 3-7, 2-6, 6-2, 7-5. Le tenant du titre, Rafael Nadal, a balayé le grand espoir allemand Alexander Zverev 6-1, 6-1, 20e joueur mondial le jour de ses 20 ans. Le numéro 3 mondial Stan Wawrinka a été éliminé à son tour par l'Uruguayen Pablo Cuevas, 27e mondial, en deux matchs 6-4, 6-4. Le numéro 2 mondial Novak Djokovic a écarté l'Espagnol Pablo Carreño, 19e mondial, en 3-7, 6-2, 4-6, 6-4. Et puis enfin, Idrissa avec vous, les résultats de la suite des play-offs en NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Conférence Est, Cleveland est sur le point d'éliminer Indiana en menant la série 3-0 après sa victoire d'hier soir sur les Pacers 119-114. Milwaukee a battu Toronto et mène la série 2-1. Conférence Ouest, Memphis a battu San Antonio 105-94, mais San Antonio mène la série 2-1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Bosso au Niger a été la première ville attaquée par Boko Haram en février 2015. En juin 2016, les combattants djihadistes avaient même réussi à prendre la ville à l'armée nigérienne. Un an plus tard, Nicolas Pineau, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, s'est rendu sur place. La vie reprend à Bosso, qui se situe à quelques kilomètres de la frontière nigériane. Le reportage de Nicolas.
À l'entrée de la ville de Bosso, impossible de rater l'école ni les cris des enfants qui récitent leurs leçons. Depuis octobre dernier, 1000 écoliers ont repris les cours dans cette ville symbole de l'insurrection de Boko Haram depuis 2 ans au Niger. Madouka Mustapha est le directeur de l'école de Bosso. Il avoue être anxieux pour sa sécurité.
Parfois, si on entend certaines rumeurs, on a peur vraiment. C'est notre région et c'est notre pays, on n'a pas le choix. Sinon, on ne peut pas dire que c'est facile. On n'est pas tellement sûr de nous, mais malgré tout ça, c'est de nos frères, c'est de nos enfants, donc on n'a pas de choix. On est obligé à les enseigner.
À quelques dizaines de mètres de l'école, le drapeau nigérien flotte dans la cour de la préfecture. Lamine Ousmane en est le secrétaire général depuis 5 ans. Il a connu les attaques de 2015 et 2016 sur la ville et les impacts de balles sont toujours visibles dans son bureau. Ce fonctionnaire apprécie l'amélioration de la sécurité.
Il est rare de passer 30 minutes à Bosso sans entendre de coups de fusil ou autre. Maintenant, les gens arrivent à baquer à leurs occupations. Les activités au niveau du lac, comme la culture du maïs et la pêche même à proprement parler, elle n'a pas repris. Parce que jusqu'à présent, la sécurité au niveau du lac, elle n'est pas tout à fait revenue. Quoi. Les gens n'ont pas regagné leur village, leur site.
Le lac Tchad et ses îles, dernier repère de Boko Haram, c'est là que la force multirégionale traque les djihadistes qui avaient pris Bosso en juin 2016. Depuis cette attaque et la débâcle de l'armée nigérienne, des militaires tchadiens sont présents en nombre dans la ville. En coopération avec le Niger, ils sécurisent Bosso et permettent un semblant de retour à la normale. Au marché de Bosso, les activités ont repris, comme l'explique cette commerçante.
Ah, maintenant, il y a du mieux. Maintenant, ça dépasse. Avant, là, il n'y a pas de sécurité. Mais maintenant, là, il y a beaucoup de sécurité. Business, là, c'est le manque de rentrer dans le lac, c'est le manque qui nous amène. À moi, ça va.
L'interdiction de la pêche pèse toujours sur l'économie locale. Autre frein, elle les détourne pour se rendre au Nigeria. Impossible de gagner Malam Fatori, pourtant si proche. Pour traverser la frontière, il faut revenir sur Diffa puis se rendre vers Tamasak. Les réfugiés nigérians de Bosso espèrent rentrer chez eux, mais savent que tout sera à reconstruire dans leur village au Nigeria. Aladji Foukoutar est originaire de Malam Fatori.
Je suis retourné voir ce qui restait de nos affaires lorsque les Tchadiens sont entrés dans Malam Fatori. Tout est brûlé, il n'y a plus rien, nos maisons ont été détruites.
Les habitants rencontrés espèrent que la sécurisation de Bosso s'inscrira dans la durée et que la défaite totale de Boko Haram sera bientôt une réalité. Depuis Bosso au Niger, Nicolas Pineau pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, la connexion Internet a été rétablie jeudi dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, après 3 mois de suspension. La mesure avait été imposée, c'était pas après 3 mois, je crois que c'était après 3 jours de suspension. La grève avait été imposée suite aux manifestations et grèves générales des anglophones qui s'estiment marginalisés, certains réclamant le retour au fédéralisme, voire la sécession. Timothée Donangmaï a joint à Yaoundé le ministre camerounais de la communication, Issa Bakary Tiroma.
Le président de la République, après avoir fait examiner de fond en comble la situation sociale qui prévaut dans les 2 régions, à savoir la reprise progressive de l'école par les étudiants, par les universitaires, la résumption normale des activités commerciales, nos populations vacant à leurs occupations, et les menaces également proférées par les sécessionnistes ne trouvent plus d'écho auprès de nos populations. Pour toutes ces raisons, donc, le chef de l'État a estimé que dès lors que la situation revient à la normale, il a donc autorisé le ministre en charge des postes de télécommunication d'instruire les opérateurs de la téléphonie mobile de reprendre leurs activités sur Internet.
Si je vous ai bien compris, les raisons ayant conduit à l'imposition de la coupure d'Internet n'existent plus.
Oui, disons que la menace sécessionniste n'existe plus. L'excitation et l'invitation à la violence, à l'insurrection, à l'incivisme, tout ça, ça a donc pratiquement disparu. Mais le chef de l'État instruit nos populations de demeurer vigilantes. Parce que dès lors que ces menaces pointent à nouveau à l'horizon, le gouvernement n'aura pas de choix. Au nom de la protection de l'intégrité physique de notre pays, de l'ordre établi, le gouvernement n'aura pas de choix que de revenir à nouveau sur la sécession de l'opérationnalisation de Internet.
Diverses estimations font état de milliards de francs CFA de pertes occasionnées aux entreprises du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par la coupure d'Internet. Qu'en est-il et qu'est-ce que votre gouvernement compte faire à ce sujet?
Quand on parle de la protection de l'intégrité physique, quand on parle de la protection de la paix, l'argent ne compte pas. L'argent ne compte pas parce que accumuler les milliards du monde entier, s'il n'y a pas consensus, si le peuple n'accepte pas, ces milliards n'auront servi à rien du tout. C'est vrai que la cessation du fonctionnement d'Internet a impacté l'économie, mais le gain en termes de protection de l'intégrité physique, de vouloir vivre ensemble, la paix et le retour à la normale sont de loin plus importants que les gains économiques.
Mais tout de même, est-ce qu'il n'y aura pas de mesures fiscales en faveur de ces entreprises?
Pour l'instant, permettons d'abord le rétablissement d'Internet et puis le reste, nous verrons bien ce qui pourra être fait.
Précision ou correction, la suspension de la connexion dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest a bien duré 3 mois. C'était donc le ministre de la Communication, le ministre camerounais de la Communication, Issa Bakary Turoma. En République démocratique du Congo, les véhicules de plus de 10 ans, mais n'excédant pas 20 ans, peuvent à nouveau être importés suite à un décret signé récemment par le gouvernement. Eddy Isango a joint le vice-premier ministre congolais en charge des transports, José Makila.
Ce n'est plus 10 ans, c'est 20 ans. Parce qu'au fait, ce n'est pas la durée du véhicule qui pose problème, mais c'est l'état technique du véhicule qui pose problème. Mais il y a des mesures qui entourent cette décision, ce décret du Premier ministre. Donc, il va falloir que les importateurs puissent prouver si le véhicule a subi un contrôle technique et que ce ne sont pas des étapes qui viennent au Congo. Donc, les mesures qui vont suivre et qui seront diffusées incessamment pour éclairer les lanternes des importateurs. Parce qu'on ne va pas accepter n'importe quoi, bien que le décret est là. Mais il faudra impérativement que les véhicules subissent à partir du pays de départ le contrôle technique pour que ça soit conforme aux normes de notre pays.
Mais la décision précédente évoquait la raison de pollution. Est-ce que vous n'en tenez plus compte?
Le décret abroge le décret antérieur. C'est que les importateurs vont se conformer au présent décret. Et comme je vous le disais, que les mesures qui entourent ce décret sortiront incessamment. Et parmi ces mesures, c'est le contrôle technique obligatoire. Tous les véhicules de cet âge-là provenant de l'extérieur du pays. Je ne pense pas que les pays industrialisés peuvent délivrer le certificat de contrôle technique s'ils savent que ces véhicules produisent la pollution. Et je ne pense pas que ces véhicules soient interdits de circulation à partir des pays d'où on importe. Parce que si nous parlons de la pollution, c'est que ces pays-là acceptent aussi la pollution. Donc, notre humble avis, c'est quand on délivre un certificat de contrôle technique, c'est que le véhicule peut circuler. C'est cela.
Les syndicalistes de l'ex-ONATRA, la Société des ports et des commerces, disent que leur société a perdu plus des quarts de revenus suite à la précédente décision.
Je le confirme parce que j'ai la système technique de l'ONATRA, ils ont appelé la SPTQ, une société de transport, une société de services. À partir du moment où une société de service n'arrive pas à rendre le service à ses clients par rapport à leurs marchandises, je pense qu'il est normal que cette société connaisse une baisse au niveau de leur trésorerie. Et non seulement ça, il faut penser aussi à l'emploi. Quand ces véhicules viennent comme ça, ça crée aussi l'emploi et ça booste l'économie.
Vous avez parlé des mesures d'encadrement qui ne sont pas encore là. Quand les décrets entrera-t-il en vigueur?
Dans la semaine qui suit, les mesures d'encadrement sortiront. Parce qu'avant que le décret ne soit signé, les mesures ont été prévues. Nous attendons que le décret soit promulgué dans le journal officiel et s'en suivra les mesures d'encadrement.
C'était José Makila, vice-premier ministre congolais en charge des transports.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Ici aux États-Unis, les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche ont été assombris par plusieurs enquêtes sur une éventuelle interférence ou ingérence de la Russie dans les élections américaines. Beaucoup de questions sont restées sans réponse à ce propos. Le point avec Lionel Gahima.
Le 10 janvier, les hauts responsables des renseignements américains ont témoigné pour la première fois devant une commission du Sénat sur les efforts russes en vue de saboter la dernière présidentielle américaine. James Clapper, ancien directeur des services secrets. Nous croyons fortement que le président Poutine a ordonné une campagne d'influence en 2016. Ses objectifs étaient d'amoindrir la foi au processus démocratique américain, dénigrer Hillary Clinton et réduire ses chances à la présidence. M. Poutine et le gouvernement russe ont affiché une nette préférence pour Trump, le président élu. Il y a beaucoup d'accusations, mais très peu de preuves dans le plus gros scandale à secouer Washington depuis plusieurs années. Après plusieurs semaines, il y a eu la démission du conseiller de Trump à la sécurité nationale, le limogeage de la ministre intérimaire de justice et la décision du président de la commission du renseignement de la Chambre de se récuser de ses enquêtes liées à ce scandale. Finalement, le directeur du FBI rend public ce qui était déjà l'objet des supputations en disant que son agence avait commencé une enquête sur la Russie en juillet dernier. J'ai obtenu le feu vert du ministère de la Justice pour que le FBI mène des enquêtes sur les efforts du gouvernement russe visant à interférer dans les élections de 2016, ce qui inclut la nature éventuelle entre des individus associés à la campagne de Trump et le gouvernement russe. Donald Trump a qualifié ces accusations de canulars, affirmant que le vrai scandale, c'est la surveillance que l'administration Obama aurait ordonnée sur lui et ses associés pendant la campagne de l'année dernière. Ce sont des fausses nouvelles, Mais pour Richard Benveniste, ancien procureur dans le scandale de Watergate, l'enquête sur Trump, c'est du sérieux. Ça met en relief les vulnérabilités de notre démocratie et des autres démocraties dans le monde sur des techniques d'interférence, le piratage informatique, la désinformation et plusieurs sortes de perturbations dont nous devons être protégés. Et les parlementaires américains veulent aller jusqu'au bout et aussi longtemps que cela prendra. Richard Burr, président de la commission du Sénat sur le renseignement. On ne dira jamais assez ce que la mission de la commission, qui est de passer à la loupe toutes les activités que la Russie a pu mener pour altérer ou influencer les élections de 2016 aux États-Unis. Et la commission sénatoriale sur les renseignements est l'une des cinq entités qui doivent regarder de plus près cette interférence russe. Sept employés de cette commission doivent passer en revue des milliers de documents classés secrets. Une vingtaine de témoins seront interrogés, dont Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump. Le FBI a refusé de commenter, mais le mois dernier, son directeur James Comey a affirmé qu'il est franchement impossible de dire le temps que l'enquête prendra.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sebudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.